Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, des comptes donc. À rebours peut-être, parfois. De toute façon, tous les comptes ne sont-ils pas une manière de nous prendre à rebours, de nous surprendre? En tout cas, les bons, sûrement. Les comptes mystérieux, tiens, peut-être, comme aujourd'hui, puisqu'on continue une série à partir d'un livre de Michel Jacquet, Contes mystérieuses del Quercy. Contes mystérieux du Quercy. Tout est du Quercy, même la radio. Même la radio, même les ondes du Quercy. Alors, c'est vrai qu'on lit en quatrième de couverture, la fantaisie des Quercinois a créé toute une mythologie populaire. On peut quand même remplacer Quercinois par le nom de tous les peuples de la Terre. Et cette phrase reste valable. Souvent, on se croit les seuls à avoir inventé des choses aussi extraordinaires, mais ça circulait beaucoup aussi, ça se transmettait, ça évoluait. C'est la culture populaire, les contes traditionnels. On y va, on embarque dans la forêt tout de suite avec l'histoire des sauvages dans la forêt. Un propriétaire terrien, quercinois, et son épouse avaient deux filles, bien jolies, mais guère éveillées. Ils durent les élever eux-mêmes, sans l'aide des grands-parents qui étaient décédés trop tôt. Ces filles, quelque peu étourdies, n'étaient pas d'un grand secours pour le travail des champs. Par conséquent, les parents décidèrent de les marier au plus tôt. Comme le voulait la coutume, ils cherchèrent d'abord un mari pour l'aîné. La jeune fille était attrayante et les prétendants ne se faisaient guère prier. Elle en choisit un qui semblait bel homme, vigoureux et aussi avisé. Les accordailles furent promptement conclues. Néanmoins, et malgré la décision qu'elle avait prise elle-même, la fiancée commença à hésiter. Un jour, le père envoya son aîné au cellier pour tirer du vin. Comme il ne la voyait pas revenir, il demanda à la cadette d'aller la chercher. La cadette trouva l'aîné assise devant le muit, devant le vin, et elle était perdue dans ses pensées. Elle lui dit « Que fais-tu, ma sœur ?» « Je réfléchis, » répondit l'aîné. « À quoi réfléchis-tu ? » « Je réfléchis à ce que penseraient nos grands-parents paternels s'ils étaient encore de ce monde et s'ils me voyaient marié avec cet homme qui m'est promis. »« Ah, eh bien, réfléchissons ensemble, » proposa la cadette. Le propriétaire, qui ne voyait pas ses filles revenir, descendit lui-même au cellier pour se rendre compte qu'elles avaient oublié de fermer le robinet. Tout le vin s'était répandu sur le sol, tandis que les deux jeunes filles, elles, réfléchissaient. Une semaine plus tard, les deux filles menèrent les vaches au pré. Pendant que les bêtes broutaient, l'aîné s'assit pour réfléchir. « À quoi réfléchis-tu ? » questionna la cadette. « Je réfléchis à ce que penserait nos grands-parents maternels, s'ils étaient encore de ce monde et s'ils me voyaient marié avec cet homme qui m'est promis. » « Eh bien, réfléchissons ensemble, » dit la cadette. Tandis qu'elle réfléchissait, les jeunes filles n'avaient plus surveillé les vaches qui avaient divagué dans les champs et dévoré le maïs du voisin. Un mois plus tard, le père était rentré de la chasse avec une gibecière remplie de perdreaux. Il les pluma, les mit à la broche, alluma un bon feu de coque de maïs dans la cheminée et chargea ses filles de surveiller la cuisson. Pendant que la broche tournait, l'aîné cessa de regarder les oiseaux pour penser. « À quoi réfléchis-tu ? » intervient la cadette. « Je réfléchis à ce que penseraient nos arrière-grands-parents s'ils étaient encore de ce monde et s'ils me voyaient mariée avec cet homme qui m'est promis. » « Eh bien, « réfléchissons ensemble, » ajouta la cadette. Tandis qu'elle réfléchissait, le gibier, bien sûr, brûla tout. Finalement, quand même, le mariage de l'aîné fut célébré. Les parents, tout attendris, furent également soulagés quand ils virent le mari envoûté par la beauté de sa femme. La prendre dans ses bras vigoureux pour la conduire jusqu'à sa ferme qui prospérait dans le voisinage. Les premiers temps du mariage furent pour l'homme un véritable enchantement. Sa femme, maladroite dans la vie quotidienne, se montra des plus habiles et des plus inventives au jeu de l'amour. Mais la volupté ne suffit pas. Les jeunes mariés devaient aussi exploiter la ferme. La distraction de l'épouse n'arrangeait guère leurs affaires et ils se trouvèrent rapidement endettés. L'homme, qui adorait sa femme, ne se rendit pas compte à quel point ses affaires étaient dans une mauvaise situation. Au début de l'été, la malchance voulut qu'une tempête détruisit la maison de fond en comble, tandis qu'une grêle violente s'abattait sur les champs et anéantissait les récoltes. Ce désastre s'ajouta aux dettes, de telle sorte que la ferme fut en faillite. Le jeune fermier rassembla quelques outils, un peu de linge, et chargea le tout sur son épaule. En jetant un dernier coup d'œil sur ce qui fut son bien, il sortit de la cuisine et ne put que murmurer « Maintenant que nous avons tout perdu, les créanciers seront bientôt là pour vendre tous nos champs et ce qui reste de la maison. Que pourrions-nous faire d'autre que prendre la porte ?» L'épouse crut sans doute qu'elle devait obéir à son mari à la lettre. Aussitôt, elle ôta la porte de ses charnières et la chargea sur son dos. Elle avait pris auparavant une petite bouteille d'huile et un sachet de sel en pensant qu'elle aurait peut-être besoin en route de cuisiner un peu de nourriture. Le couple partit de bon matin et marcha longtemps par de mauvais chemins. Vers midi, ils entrèrent dans une forêt profonde. Au crépuscule, épuisés et affamés, ils avaient atteint une clairière quand ils entendirent un bruit étrange. Malgré les fardeaux qu'ils transportaient, ils prirent peur et grimpèrent sur un chêne pour se dissimuler dans l'orage. À ce moment, ils eurent la surprise de voir sortir des recoins les plus obscurs de la forêt toute une populace bizarre. Des hommes hirsutes et vêtus de peau de bête se réunirent au pied du chêne où le couple était perché, tandis que des femmes à demi-nues s'accroupissaient un peu plus loin. C'était une tribu de sauvages qui semblait vivre au cœur de cette forêt sans contact avec la civilisation et sans que quiconque s'en fût douté. Il faut comprendre la stupéfaction de nos fermiers. Ils n'avaient pas entendu dire et n'auraient jamais pu imaginer qu'il existât des sauvages de cette sorte, aussi près de leur pays carcinois qu'ils croyaient assurément civilisé. Les hommes sauvages allumèrent un grand feu au pied du chêne. Sur le feu, ils placèrent un énorme chaudron et dans le chaudron, un cochon entier qu'ils avaient soigneusement découpé en morceaux pour le faire fondre. Les femmes, de leur côté, s'affairaient à d'obscures besognes. Deux ou trois hommes, munis de longues louches, remuaient vigoureusement le contenu du chaudron, la viande et la graisse du cochon. L'un d'eux portait des habits différents des autres et son apparence déconcertante, plus majestueuse, laissait penser qu'il était le chef de la bande ou peut-être quelque prêtre païen. Il commandait avec autorité. « Ce repas que nous préparons nous rassasira et nous fortifiera. Remuez, frères, et que la grâce du ciel descende sur nous. » Quand furent dites ces paroles solennelles, celui qui était le chef ou un prêtre païen ajouta « Frères, ne sentez-vous pas une sorte d'odeur appétissante ?»« Bien sûr, maître, c'est assurément l'odeur de ce cochon qui cuit lentement dans le chaudron. »« Non !» répondit le maître. « Je sens quelque chose d'autre qui paraît plus goûteux, comme un savoureux fumet de chrétien. Dès qu'ils entendirent cette conversation, le fermier et son épouse furent pétrifiés par la peur. Ces sauvages semblaient assurément plus friands de chair humaine que de charcuterie et les dévoreraient peut-être si le cochon ne leur suffisait pas. La femme ne pouvait pas s'empêcher de trembler. En se signant, elle fit tomber le sel dans le chaudron. Par chance, le chef des sauvages ne comprit pas d'où venait une poudre si blanche et si fine. Au contraire, il semblait même heureux de la regarder pleuvoir. « Remuez encore, frère, voici la grâce du ciel qui descend sur nous. » Au bout d'un moment, la femme, toujours terrifiée et tremblante, laissa échapper la petite bouteille et l'huile se déversa également dans le chaudron. De nouveau, le chef des sauvages vit cet écoulement onctueux, mais sans s'émouvoir. Il prêchait toujours. « Remuez encore, frère, la grâce du ciel continue de descendre sur nous. » Tout le jour, la femme avait marché avec la porte sur son dos, sans que son mari, qui allait devant, s'en fût encore aperçu. Tout son corps était endolori. Elle se plaignait. « Mon mari, j'ai les poses toutes ankylosées. Cette porte me pèse trop, je sens qu'elle m'échappe. » « Femme, tu n'avais pas vu que tu transportais une porte sur ton dos. Cependant, je t'en prie, tiens-la bien pour ne pas la laisser tomber. Si les sauvages s'avisaient de notre présence, nous serions définitivement perdus. Ils nous tueraient et pire, dépèceraient notre corps pour les dévorer, pour le dévorer. Ainsi, la résurrection nous serait interdite. » La femme se mue légèrement pour tenter d'équilibrer cette charge si encombrante, de sorte que la porte glissa et s'abattit dans le chaudron avec un bruit d'enfer. Aussitôt, tous les sauvages, hommes et femmes, furent épouvantés et se dispersèrent dès que leur chef se fut mis à crier « Fuyez, frères ! Cette fois, c'est le trône du ciel qui nous tombe dessus. » En entendant ce vacarme, les sauvages avaient cru que la chute de la porte était quelque événement surnaturel. L'épouvante les fit disparaître et les fermiers furent sauvés. Les fermiers se nourrirent-ils de la viande de porc qui avait cuit dans le chaudron? L'histoire ne dit rien de cela. La moisson. C'était l'été, le mois d'août, et la saison des moissons. C'était un homme déjà dans la quarantaine, mais encore robuste. Il avait peu de biens. Pour cette raison, il pensait se louer comme journalier. Un matin, où il attendait les employeurs sur la place centrale, un inconnu, dont le visage était caché par un capuchon, s'approcha de lui. L'étranger s'adressa au journalier. « Si le dur labeur ne t'effraie pas, je pourrais t'embaucher comme moissonneur. Et bien sûr, je te payerai bien. Chaque matin, dès l'aube, je te montrerai un champ que tu devras moissonner entièrement. Pour que le travail avance promptement, je te prêterai une faux de bonne qualité, faite d'un métal précieux, afin que son fil ne s'émousse pas. Ainsi, tu ne perdras pas de temps, car tu n'auras pas besoin de t'arrêter pour l'aiguiser à nouveau. Chaque soir, au soleil couchant, je t'attendrai à la pierre du lac. Là-bas, si ton travail me satisfait, je te donnerai un louis d'or pour la journée. Il existe, à une lieue et demie de la petite ville de Montclar de Quercy, un lieu appelé la Pierre du Lac. Si vous passez par là, vous serez surpris de n'y trouver aucun lac. Mais vous y verrez peut-être une pierre dressée et rougeâtre. On dit que du temps de la guerre de Cent Ans, se déroula à cet endroit une bataille féroce qui déversa tout un lac de sang. Au cours des siècles, le lac de sang s'assécha, seule la pierre resta teinte de cette couleur. Quand il entendit prononcer le nom de ce lieu sinistre, le journalier ne put s'empêcher de trembler. Néanmoins, quel ouvrier pauvre renoncerait à un salaire aussi attractif? Le premier jour de travail, l'étranger conduisit le journalier jusqu'à un champ de blé et lui remit la faux promise. Tout le jour, le moissonneur travailla durement, sans s'arrêter, ni même regarder son outil qui taillait à merveille. Au crépuscule, il avait fauché toute la pièce. Il alla à la pierre du lac et reçut un louis d'or rutilant. Le second jour, l'étranger le conduisit jusqu'à un champ de seigle. Le moissonneur travailla durement, sans s'arrêter, ni même regarder son outil. Au crépuscule, il avait moissonné toute la pièce. Et il alla à la pierre du lac et reçut un autre louis d'or blond. Le troisième jour, l'étranger conduisit le moissonneur jusqu'à un champ d'orge. Un furieux vent d'automne s'était levé et soufflé. La chaleur était insupportable. À 3 heures de l'après-midi, le moissonneur sentit que la soif lui brûlait le gosier. Il posa son outil pour aller puiser un seau d'eau. Quand il eut étanché sa soif, il reprit le manche de la faux et s'aperçut que le fil de la lame était rouge et dégouliné de sang. Épouvanté, il jeta l'instrument le plus loin qu'il put et cessa de moissonner. Au soleil couchant, il revint à la pierre du lac pour trouver son employeur et lui faire savoir qu'il ne voulait plus travailler pour lui. Alors, le mystérieux étranger s'irrita et d'un simple revers de la main repoussa son capuchon en arrière pour dévoiler un visage complètement décharné. Le journalier, apeuré, s'enfuit jusqu'au presbytère pour trouver le chapelain. Il était tout pâle et tremblant quand le prêtre lui ouvrit pour lui demander « Mon fils, il me semble que tu as mauvaise mine. Ne serais-tu malade? Dis-moi ce qui te tourmente. » « Monsieur le curé, quelqu'un m'a embauché pour moissonner des champs. Il est certain que j'ai bien besoin de travailler et qu'il me payait généreusement, mais je me suis rendu compte que la lame de ma faux devenait vite rouge de sang. Par ailleurs, mon employeur m'a montré son visage tout décharné comme celui d'un squelette. Bien que je ne comprenne guère ce qui m'arrive, je crois que j'ai commis un grand péché. » Le chapelain garda le silence pour mieux réfléchir. Au bout d'un moment, il reprit la parole. « Mon fils, je peux te l'affirmer, cet étrange personnage que tu as rencontré était tout simplement la mort. Elle t'a embauché car elle n'arrive pas à accomplir sans aide sa mission présente. Sans que tu en fusses conscient, elle te demanda de lui prêter la main pour faucher des vies humaines. » Toutefois, ne t'en fais pas trop, tu n'es coupable de rien car nul ne peut échapper à son destin. Je ne te plaindrai pas l'absolution. » Cet été-là, il tombait une multitude d'hommes encore jeunes de toutes nations, comme étaient moissonnés des épis de toutes sortes, du blé, du seigle et de l'orge. C'était le mois d'août de l'an 1914. Eh bien oui, c'est fini. Et oui, les contes mystérieux du Quercy, c'est fini pour aujourd'hui. C'était des histoires donc de ce livre de Michel Jacquet qui est aux éditions des Régionalismes. Que dire d'autre, la musique, c'était aussi des musiques du Quercy. Si vous voulez savoir avec détail qu'est-ce que c'était, eh bien il suffit de se reporter au site internet. Vous avez sur cfm.fr, un truc comme ça, bien compte à rebours dans les rubriques des émissions culturelles, et vous pouvez aller télécharger toutes les histoires depuis plusieurs années, même presque plusieurs siècles. Donc voilà, c'est fini, et bien je vous dis à la semaine prochaine. C'était Marco, compte à rebours, ciao.